Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, bonsoir Marion.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Émission exceptionnelle ce soir au plus près des soignants. C'est une nouvelle année sous Covid qui vient de commencer avec une situation inédite, décrite en ces termes très fort tout à l'heure par le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale.
Chaque seconde, plus de 2 Français sont contaminés par le virus est diagnostiqué comme tel. Le raz-de-marée est donc là et bien là. Il est vertigineux, mais nous ne cédons pas à la panique.
Un raz-de-marée en cours, mais cette vague sera-t-elle la dernière? C'est l'espoir d'Olivier Véran et c'est une des questions que je poserai à nos deux invités, l'infectiologue Gilles Pialoux, l'urgentiste François Braun. Et face à ces vagues Delta et Omicron qui se chevauchent, une question ce soir. Les soignants devront-ils finir par faire un choix dans leur prise en charge Covid entre vaccinés et non vaccinés? La question est sur la table, on la posera avec aussi au 3210, infirmiers, laborantins, médecins, pharmaciens, vous témoignez dans RTL Soir jusqu'à 19h15. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Agnès Bonfillon, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Des tests uniquement sur rendez-vous dans certains laboratoires, file d'attente interminable dans d'autres, grosse tension mais aussi rupture d'écouvillon, vous allez l'entendre. Un raz-de-marée vertigineux, ce sont donc les mots choisis par le ministre de la Santé alors que le pass vaccinal commence à être examiné par les députés. Parce que la pollution sonore peut rendre dingue, un premier radar installé ce matin pour épingler les deux roues trop bruyants. Et puis jackpot décroché hier dans un casino du Nord, plus de 2,6 millions d'euros pour un seul joueur.
Bonne année.
Elle commence bien cette année 2022. Et puis les courses avaient lieu à Pau, voici les résultats, le 3, le 9, le 8, le 2 et le 11.
À 18h40, on va défaire le monde, vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signy et toute sa bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on défait la bonne année avec cette vraie question de fond. Harassé par le Covid, faut-il continuer à prendre de bonnes résolutions? On vous offrira une séance chez le psy pour y répondre. Et puis au menu également, la vraie symbolique de l'Arc de Triomphe et le pop-corn qui sauva le cinéma.
19h15, on va refaire le monde et notamment justement le drapeau sur l'Arc de Triomphe autour d'Éric Brunet. Et puis des points réguliers tout au long de l'émission sur la météo avec vous, Louis Baudin. Bonsoir.
Bonsoir Marion.
La tendance?
Eh bien encore des nuages, de la pluie, du vent, j'ajouterai même du vent notamment dans la moitié nord, un peu plus de soleil dans le sud, mais les températures vont commencer à baisser l'après-midi.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir,
le journal, Marion Calais,
Agnès Bonfillon.
De plus en plus de contaminations, ça veut dire de plus en plus de tests dans les laboratoires et les pharmacies. Désormais, on peut le dire, hein, les files d'attente passent d'importantes à impressionnante. Julie Brault, vous avez pu le constater dans le département qui enregistre le plus fort taux d'incidence en métropole, l'Essonne, 3034 cas pour 100 000 personnes. C'est du jamais vu et on arrive parfois à une rupture d'écouvillon, Julie.
Oui, devant les portes coulissantes du centre de dépistage, des dizaines de personnes sont forcées de faire demi-tour.
Je n'ai plus de fourniture. Je ne peux plus prendre personne, désolé.
Depuis 13 heures, impossible de faire un test PCR face à une affluence encore jamais vue. Mehdi est en rupture d'écouvillon, il est le manager du centre.
On ne peut pas malheureusement prédire le nombre de personnes qui viennent. On avait un stock qui était malheureusement limité et on a été pris de court au final. On est déjà, je crois, à 450 tests ou 470 tests. Ouais. C'est hallucinant. Normalement, on prélève de 9h à 18h. Et là, j'ai bloqué moi depuis 13 heures déjà.
À l'intérieur, une file d'attente s'étend sur une dizaine de mètres. Les chanceux qui vont pouvoir profiter des derniers tests attendent depuis plusieurs heures.
Nous, on est là depuis 10 heures ce matin.
Ça fait combien de temps que vous attendez ?
4h30.
J'étais à l'ouverture pourtant et il y avait déjà la queue d'ici jusqu'à Boulanger derrière là-bas. J'ai jamais vu autant de monde, même quand c'était en pleine crise de Covid.
À Massy, tous les laboratoires d'analyse sont pris d'assaut. Résultat, impossible de se faire tester sans rendez-vous. Sur Doctolib, le délai d'attente est d'au moins une semaine.
J'imagine alors qu'il faut se tourner vers les pharmacies.
Alors, c'est une solution, mais il faut s'armer de patience. Je me suis rendue dans 5 pharmacies et devant chacune d'entre elles, les files d'attente s'allongent. Certains attendent plus d'une heure pour se faire tester. Du jamais vu, me dit Marie-Christine, pharmacienne. Pour elle, c'est notamment une conséquence de la réduction du temps de validité des tests antigéniques.
Puisque maintenant, ils sont valables que 24 heures, donc forcément, ça augmente le nombre. Puis vous avez aussi des hôpitaux qui demandent des tests beaucoup plus poussés aussi, ce qui fait que tout ça augmente. Et les cas de Covid augmentant, forcément, ça fait double test.
Un engorgement qui force certains à se faire tester ailleurs que dans leur ville.
Merci beaucoup pour ce reportage à Massy en Essonne. Julie Brault, merci. Et ce dépistage devrait garder le même rythme, voire encore s'accélérer alors que le variant Omicron déferle sur le pays.
Face au raz-de-marée dont parle Olivier Véran, 2 contaminations par seconde, les députés débutent l'examen du projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, Thomas Desprez. Si l'issue des débats ne fait guère de doute, ces derniers sont animés, voire tendus.
On est tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu dès le début de cet après-midi pu assister à un échange musclé entre le ministre de la Santé et Jean-Luc Mélenchon. Le leader des Insoumis a été le premier à prendre la parole tout à l'heure en séance dans l'hémicycle, demandant le rejet tout simplement de ce texte. Pour lui, le gouvernement a manqué d'anticipation.
Vous avez semé un chaos indescriptible du fait de votre imprévoyance. Le chaos, la pagaille, partout. Ce n'est pas une manière de combattre une crise dans une crise sanitaire.
Monsieur le député Mélenchon, par le passé, vous vous êtes tellement trompé qu'il est difficile aujourd'hui de vous prêter la même attention lorsque vous vous exprimez. Vous avez comparé le vaccin ARN messager, je cite, à des surgelés vendus dans des supermarchés. Voilà qui est très bon pour la confiance des Français. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais, jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre 3e dose de Pfizer, monsieur le député.
Échange musclé, vous l'avez entendu, entre les deux hommes. L'Assemblée qui a débuté les débats depuis 3 heures maintenant, mais les députés n'avancent pas très vite. Ils n'en sont qu'au début de l'article 1er. Ils n'ont même pas encore adopté le principe même du pass vaccinal. Des débats qui devraient s'étendre jusqu'au bout de la nuit.
Thomas Desprez en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. Assemblée touchée également par le Covid, à commencer par son président. Richard Ferrand a été testé positif. Il est à l'isolement, tout comme la ministre chargée de l'égalité, Elisabeth Moreno. Puisque l'on parle test, il faudra en effectuer 3 en 4 jours quand on est élève de primaire et cas contact. En revanche, pas d'isolement. Ça fait partie du nouveau protocole depuis ce matin pour éviter les fermetures de classes en cascade. Gestion des élèves, mais aussi des enseignants. Écoutez Christophe Querrero, le recteur de l'Académie de Paris. Il a fait le compte des profs absents ce matin dans les écoles primaires de la capitale.
Nous avons des professeurs absents, naturellement. L'école n'est que le reflet de la société. Nous sommes sur un taux de 13% d'absence et l'année dernière, nous étions à 9%. En plus de nos 600 remplaçants ordinaires, nous avons recruté 80 contractuels. Beaucoup d'étudiants à ce stade, mais aussi des parents, des mères de famille qui reprennent une activité. Et nous allons continuer de recruter des retraités, des étudiants pour être en capacité de remplacer le plus possible les professeurs absents.
Des propos recueillis par Marie Guerrier, spécialiste de l'éducation à RTL.
Et ce casse-tête des plannings, il se concrétise un peu partout, notamment en mairie.
Oui, certaines communes croisent les doigts pour que les tableaux de service tiennent tels quels. Par exemple, à Messin, village de 2000 habitants au sud de Nancy, le télétravail pour les employés de la mairie, c'est tout simplement impossible, Dimitri Ramelot.
Oui, dans cette municipalité de 17 employés à temps plein.
4 personnes en administratif, 4 en technique, 7 périscolaires et 2 pour la base nautique.
Impossible pour les personnes affectées à l'entretien de la base nautique, aux agents des services techniques et ceux du périscolaire de travailler à distance. Seule une discussion a eu lieu entre les 2 chargés d'accueil et le maire, Daniel Lagrange.
La mesure qu'on a prise, c'est qu'on prend une seule personne à la fois pour éviter tout contact avec, bien sûr, présent des masques, gestes barrières.
Et comme sa collègue, Christelle, l'une des 2 secrétaires, a préféré renoncer au télétravail.
Les administrés ont besoin de venir sur place pour avoir certains renseignements et certaines documentations. De la maison, c'est compliqué.
Et dans le cas où l'un des 17 employés contracterait le Covid, le maire n'aurait pas trop le choix.
On n'a pas de postes qui peuvent être interchangés avec d'autres personnes. Chacun a une mission bien précise. Au sein de l'équipe technique, on peut changer les choses. Mais d'un service à l'autre, on est cloisonné. Il faut prendre des gens contractuels directement. Il faut trouver des gens qui peuvent s'adapter aussi vite. C'est très compliqué.
Une situation qui serait inédite inédite puisqu'aucun des 17 employés n'a contracté le coronavirus depuis le début de la crise.
Le reportage de Dimitri Ramelot. Une pause et dans un instant sur RTL. Amis motards, surveillez vos pots d'échappement. Les radars sonores sont arrivés. A tout de suite.
RTL Soir avec Marion Calais. RTL Soir avec Marion Calais.
18h11, c'est bien un doux bruit de moto, de deux roues que vous entendez à présent. Et attention, si vous conduisez ce genre de véhicule, ça risque de vous coûter cher désormais, hein, Agnès.
Oui, dans les Yvelines, un premier radar va bientôt se charger d'épingler les engins les plus bruyants. Cette mesure devrait ensuite se généraliser. Mais tout d'abord, à quoi ressemble ce dispositif, Christophe Bourreau?
Oui, et à peine installé, on le surnomme déjà le radar Méduse en raison de sa forme bizarroïde. En effet, doté d'une caméra avec angle de vision à 360 degrés et de plusieurs micros perchés tout en haut d'un mât, il est capable de détecter le moindre bruit des véhicules qui passent à proximité. En cas d'infraction, la Méduse peut alors scanner la plaque d'immatriculation comme une cabine classique. Mais pour l'instant, le seuil du volume sonore n'a pas été défini. Il faudra pour cela attendre la fin de l'expérimentation, c'est-à-dire au printemps prochain. En revanche, on connaît déjà le montant de l'amende, 135 €. Dans le collimateur, les deux roues, mais aussi les voitures sportives. L'idée est de développer ce radar dans plusieurs villes, 7 cette année, comme à Nice et Toulouse, pour lutter contre la pollution sonore. Une pollution qui, tout bruit confondu, toucherait pas moins de 25 millions de personnes en France.
Les explications de Christophe Bourreau pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Vous le savez, TikTok, Marion, c'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. Il permet de poster des vidéos. Figurez-vous qu'il permet aussi des miracles.
Ah oui ?
La preuve, ce week-end, en Chine, un homme de 37 ans a retrouvé sa mère après avoir posté un avis de recherche. En fait, il avait été kidnappé enfant, Émilie Beaujard.
Et oui, Li a alors 4 ans. Il est enlevé et vendu à une autre famille chinoise. Pendant des années, il va tenter de retrouver ses parents, son village, sans succès. Il y a quelques semaines, il poste donc sur le réseau social TikTok, un dessin du village de son enfance, fait d'après ses souvenirs d'enfant. Et il écrit « Je suis un enfant qui cherche à retrouver sa maison. J'ai été emmené au Henan par un voisin chauve vers 1989, quand j'avais environ 4 ans. » Le réseau social s'enflamme, la police intervient également et les enquêteurs finissent par identifier le village, puis la mère de Li. Des tests ADN sont réalisés et c'est bien sa maman. Li et sa famille ont pu se retrouver 33 ans plus tard. Et des retrouvailles, bien sûr, filmées en direct sur TikTok.
Que c'est beau, merci beaucoup Émilie Beaujard.
Et les belles histoires, ça se passe aussi chez nous, hein, dans le Nord.
À Saint-Amand-les-Eaux, précisément. Hier, un joueur d'une trentaine d'années a gagné plus de 2,6 millions d'euros en mettant une pièce de 2 euros dans une machine à sous.
La bonne affaire.
Écoutez, Charles Leroy, directeur adjoint du Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, donc joint par Franck Hanson.
La seule fois où je joue les 2 euros d'un coup, il remporte les 2 600 000 euros. Wow. Et alors là, je passe à côté de lui, il me dit « Monsieur, excusez-moi, ma machine est en panne, je ne sais pas ce qui se passe, elle ne fonctionne pas. Je crois que j'ai gagné quelque chose. » Et là, je regarde la machine, je me suis resté bien assis. Je venais de gagner 2 626 000 euros, vous êtes un nouveau millionnaire. Plein d'émotions, mais en même temps, ça fait peur. L'esprit s'est calmé doucement et il est reparti avec le chèque pour aller le mettre en banque. C'est un monsieur qui était en train de regarder pour comment il allait pouvoir réussir à faire des travaux chez lui. Il devait refaire le rez-de-chaussée pour accueillir au mieux sa maman. Et pour le coup, c'était compliqué avant. C'est devenu facile aujourd'hui. On reste dans l'humain et dans ce que l'on aime aussi chez nous.
Pour quelle équipe cette année 2022 va également bien commencer en 16e de finale de la Coupe de France? Vannes reçoit le PSG ce soir, coup d'envoi du match à 21h10.
Elle arrive avec plein de nouvelles, de bonnes nouvelles. Toujours Agnès Bonfillon, merci. Bonne soirée à vous. Le temps maintenant, Louis Baudin. Alors là, c'est moins des bonnes nouvelles hein, pour le coup. On commence l'année sous la pluie.
Sous la pluie, oui, qui demain affectera encore la plupart des régions. C'est une nouvelle perturbation qui va balayer quasiment toute la France. Donc ça commencera par le nord-ouest, ça finira par les régions du sud et de l'est. Alors sauf tout près de la Méditerranée, c'est vrai qu'entre les Pyrénées-Orientales, les Alpes du Sud et la Méditerranée, là vous passerez encore la journée au sec avec une belle luminosité. Ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y aura des passages nuageux, de la pluie et du vent. J'ajoute du vent 80-90 km/h, y compris dans les terres. Donc ça va souffler au passage de cette perturbation. Quelques éclaircies peut-être dans le nord-ouest, mais avec encore des averses et du vent. Puis côté température, le matin encore une grande douceur, entre 6 c'est 11 degrés. Mais l'après-midi, ça va commencer à baisser. 8 à 10 degrés seulement au nord de la Loire. Donc on repasse sous les 10 degrés. 13 à 17 degrés encore dans les autres régions.
On va retrouver un temps de saison finalement
petit
dans
à
les
petit,
prochains jours.
Mercredi.
Merci Louis Baudin. Allez, dans un instant, RTL Soir se poursuit au plus près des soignants. Émission exceptionnelle face à Omicron, face à Delta. Peut-on croire au début d'une forme d'immunité collective? La vague actuelle sera-t-elle la dernière? Nos deux invités sont déjà là. A tout de suite.
Marion Calais, RTL Soir. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir.
Émission spéciale dans cet RTL Soir auprès des soignants ce lundi. Ceux qui soignent, ceux qui testent, ceux qui vaccinent, ils font désormais partie de notre quotidien. Nous sommes nombreux à nous être tournés vers eux ces derniers jours avec les fêtes et c'est à ces témoins de la crise sanitaire que l'on a choisi de donner la parole ce soir. Vous, acteurs de première ligne en laboratoire, en pharmacie, en cabinet, vous nous appelez au 3210. Vous interpellez aussi nos deux invités, chef de service à l'hôpital, François Braun, chef des urgences au CHR de Metz-Thionville et président du syndicat SAMU Urgences de France, Gilles Pialoux, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
On va passer une vingtaine de minutes ensemble pour évoquer cette vague Omicron, la situation de l'hôpital, l'état d'esprit des soignants. D'abord, Gilles Pialoux, tout à l'heure, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a rappelé ce chiffre. Chaque seconde, plus de 2 Français sont contaminés par le virus. Ça, c'est la vague Omicron. Elle ne montre aujourd'hui aucun signe de ralentissement.
Non, la vague Omicron ne montre aucun signe de ralentissement, ça c'est une certitude. Surtout dans nos régions, là, qu'on représente tous les deux, notamment en Ile-de-France. Donc on est probablement à 80% déjà d'Omicron. Mais le problème, c'est que Delta est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 2 vagues l'une sur l'autre, ce qu'on n'a jamais connu pour l'instant dans ces 2 années. Alors évidemment, en réanimation, plus de patients Delta, on en discutera, et en hospitalisation et aux urgences, plus de patients Omicron.
Justement, François Braun, des cas Omicron, vous, à l'hôpital, au CHR de Metz-Thionville, vous en avez déjà ?
Oui, oui, nous commençons à avoir des cas Omicron, et comme ça a été très bien dit, sur un fond Delta qui persiste. Alors, ce sont surtout des appels au niveau des SAMU qu'on constate actuellement, une forte augmentation des appels aux SAMU concernant les patients Covid. Et ce que l'on attend, ce que l'on craint peut-être aussi, c'est dans une semaine, dans 15 jours, la transformation de ces cas au départ bénins qui peuvent s'aggraver.
Alors, il y a l'exemple du Royaume-Uni qui a un petit peu d'avance sur nous dans cette épidémie. Les études qui nous viennent du Royaume-Uni sont plutôt rassurantes, avec notamment un besoin moins important en ventilation artificielle pour les hospitalisations, des cas moins sévères. Ça vous donne de l'espoir, ça, François Braun ?
Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est ce que l'on constate. C'est toujours difficile de faire une transposition exacte de ce qui se passe dans un autre pays qui n'a pas eu la même politique vaccinale, qui n'a pas les mêmes conditions. Mais ce qu'on voit surtout actuellement, c'est une augmentation des hospitalisations plutôt dans les services de médecine, c'est-à-dire de patients moins graves, moins oxygéno-requérants, et pas trop de saturation sur les réanimations, même si la situation reste très tendue.
Alors cet Omicron, il touche évidemment tout le monde, les patients, mais aussi les soignants. À la PHP, Gilles Pialoux, les soignants sont-ils beaucoup touchés par Omicron ?
Ben, les soignants suivent à peu près la population de la tranche d'âge auquel ils appartiennent et effectivement sont beaucoup touchés. On est en train de réécrire à toute vitesse les mesures pour l'éviction des personnels, pour diminuer l'éviction au maximum, notamment des personnels contacts, pas d'éviction, et des personnels qui sont asymptomatiques, parce que on est à flux tendu avec un absentéisme très important, des salles qui sont fermées, et c'est sûr que l'arrivée de cette vague incidente d'Omicron par-dessus la Delta, alors qu'on manque de personnel, est très compliqué. Et puis, vous savez, on tire sur le personnel qui est là, parce que, par exemple, dans mon service, au lieu de s'occuper de 8 lits Covid, une infirmière s'occupe de 13 lits. Et évidemment, ça pèse sur le personnel qui est en place. Et c'est vrai que cette équation entre les pathologies hivernales qui sont revenues comme avant le Covid, dont avant 2019 aux urgences, plus l'arrivée d'Omicron, plus le Delta, plus l'absentéisme, est une équation pour le mois de janvier qui va être très compliquée à résoudre. Mais voilà, pour l'instant, on vit au jour le jour.
Aujourd'hui, votre hôpital fonctionne correctement, François Braun ?
Il fonctionne correctement, mais il ne fonctionne pas à plein régime. Parce qu'effectivement, il y a du personnel qui n'est pas là, on a des lits qui sont fermés, et c'est dramatique vu la situation qu'il y a actuellement dans les urgences, avec une très très forte activité. Mais Gilles Pielle a raison, le véritable enjeu, ce sont les personnels soignants face à cette vague, même si ce n'est pas encore un tsunami, cette vague qui arrive. Nos collègues anglais nous expliquaient qu'ils avaient 30% de personnel en moins. Or, dans la situation actuelle de l'hôpital public, si on enlève 30% de personnel, on ne peut plus rien faire.
Vous n'arriverez pas à fonctionner si Omicron touche 30% de votre personnel?
Non. Il est vraiment indispensable que les cas contacts soignants se protègent, fassent tout ce qui est prévu en termes de tests, de port de masque FFP2, etc. Même les post-symptomatiques. Mais il faut qu'on puisse continuer à soigner les malades parce qu'il n'y a pas que des Covid, il y a aussi toutes les autres pathologies. Et c'est ça qui change par rapport aux vagues précédentes, c'est qu'on a une très forte activité de base, plus du Covid, Delta, Omicron et peut-être le suivant.
Alors Gilles Pialoux, il y a une petite musique qui commence à se faire entendre. Omicron serait en quelque sorte une opportunité pour développer l'immunité collective. Cette vague sera peut-être la dernière, a même dit le ministre de la Santé. Vous y croyez ?
J'y crois comme on peut y croire religieusement. C'est-à-dire que c'est une espérance. Le ministre est en droit d'espérer effectivement que cette vague soit la dernière. Bon, effectivement, on a appris sur le terrain à se méfier des petites musiques, comme vous dites. Et comme on avait commencé avec la grippounette, on voudrait pas que 2022 commence avec le petit rhume. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui a deux impacts. Le premier, c'est que les gens vont baisser encore plus les gestes barrières, ce qu'ils ont déjà fait pendant l'année 2021. À force de répéter que c'est une pathologie moins grave. Et deuxièmement, on n'a pas de visibilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, ce matin, on discutait en cellule de crise. On ne sait pas comment seront les patients à partir du 15 janvier. Est-ce qu'ils auront plutôt 40 ans, comme on en a vu beaucoup en ce moment au Danemark, en Grande-Bretagne, ou est-ce que ça sera des gens qui auront 75 ans avec des pathologies de neuro-Covid et tout ça, qu'on gardera longtemps et qui changeront complètement l'organisation. Donc effectivement, ça peut être la dernière vague, mais pour l'instant, on a une double vague à gérer dans un contexte difficile. Donc il faut qu'on passe le mois de janvier avant de pouvoir faire des prévisions, je pense.
Oui, attention à ne pas relâcher, à ne pas baisser la vigilance trop rapidement. Alors aujourd'hui, les enfants ont repris le chemin de l'école, les parents celui du travail, parfois à distance. Et il y a un élément clé dans tout ça, eh bien, ce sont les tests victimes de leur succès. On l'a entendu dans le journal et c'est aussi ce que nous a raconté au 32-10 Karim. Il est technicien dans un laboratoire de Tours.
Il y a un grand rush, effectivement. Il y a des grandes files d'attente dans la rue. Il y a au moins une centaine de personnes, voire 200. Il y a aussi une population qui est surprenante. C'est les gens qui viennent faire un test de confort. Comme le test est gratuit, parce que la majorité, c'est des gens vaccinés. Et puis, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes, etc., etc. Et eux, ils font la queue. L'impact est très, très important. Nous, on n'arrive pas à donner un résultat de test de PCR au bout de quelques heures. Ma responsable a fait appel à des étudiants en pharma. Il y en a 5 qui doivent arriver cette semaine parce que, on n'y arrive pas. Et à ce rythme-là, je suis pas sûr qu'on puisse tester tout le monde, quoi.
Gilles Pialoux, est-ce que ce sera un problème de pas pouvoir tester tout le monde?
Si vous voulez une métaphore, on a l'impression dans la vague Omicron là par-dessus Delta, c'est qu'on tente de bloquer les chaînes de transmission avec un filet à large maille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, la question du dépistage, pour répondre très clairement, c'est que il va falloir reprioriser. Vous vous souvenez qu'on l'a déjà fait. C'est-à-dire que si vraiment on a besoin de tests, il va falloir le conserver pour les personnes qui sont symptomatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui sont à risque, ou on va pas pouvoir faire comme ça du dépistage à tout le monde, car de toute façon on a perdu complètement le fil de cette vague et c'est totalement illusoire de penser qu'on va pouvoir dépister tout le monde avec les moyens qui sont mis à disposition, bien qu'on ait des nouveaux moyens qui sont les autotests, les tests rapides, etc. Mais évidemment, à partir du moment où vous avez des incidences comme on le voit, ça bouchonne dans les laboratoires et dans les pharmacies.
Ouais, vous acquiescez, François Braun, prioriser les tests, il va falloir l'envisager.
Oui, c'est ce qu'on a connu pendant la première vague. Hein. Très clairement, on ne testait que les personnes symptomatiques. En plus, la valeur de certains tests est nettement améliorée lorsqu'il y a des symptômes par rapport à des personnes asymptomatiques. Donc je crois qu'il faut toujours rester prudent. Il faut toujours espérer le meilleur, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais notre job à nous, c'est aussi de préparer le pire, donc c'est tout à fait normal qu'on puisse pas être totalement optimiste.
François Braun, Gilles Pialou, vous restez avec nous sur RTL. On va marquer une courte pause. On va s'intéresser dans un instant sur la situation à l'hôpital, sur la vaccination également, alors qu'on a appris il y a un instant la mort d'Igor Bogdanov après son frère Grishka la semaine dernière. On va se retrouver juste après ça.
RTL Soir avec Marion Calais. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir.
Et cette émission exceptionnelle au plus près des soignants se poursuit avec nos invités. François Braun, chef des urgences au CHR de Metz-Thionville, président du syndicat SAMU Urgences de France. Gilles Pialou, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Et au 3210, les témoignages des soignants en première ligne face à la pandémie. Je voulais qu'on écoute ce soir le sentiment de Valérie. Elle est infirmière au CHU de Colmar et elle raconte au 3210 son ras-le-bol face à la surreprésentation des non-vaccinés dans les lits de son établissement.
La colère envers les patients non vaccinés, on la ressent effectivement. C'est une incompréhension de notre part. On ne sait plus quel argument donner pour convaincre ces personnes. Nous comptons 23 patients Covid dans nos lits de réanimation. Et sur ces 23 patients Covid, 19 sont non vaccinés. L'exaspération au sein du personnel soignant est très grande. On a l'impression que ces patients non vaccinés jouent un peu avec leur santé, avec nos nerfs à nous et avec le système de santé français. Les interventions ont dû être déprogrammées pour pouvoir accueillir les patients non vaccinés Covid dans les réanimations. Et ça chamboule un petit peu toute l'organisation de l'hôpital et la santé d'autres personnes également.
François Braun, cette colère, cette exaspération, vous la ressentez aussi ?
Oui, bien sûr. Ce sont des propos qu'on entend tous les jours dans nos services. La colère, elle est compréhensible. Maintenant, il faut quand même raison garder. Ce vaccin n'est pas obligatoire, donc tout le monde n'est pas vacciné. Vouloir culpabiliser quelque part ces gens non vaccinés lorsqu'ils sont gravement malades, c'est vouloir aussi culpabiliser les fumeurs parce qu'ils auront un cancer du poumon, les personnes en surpoids parce qu'elles vont faire un infarctus, etc. etc. On ne peut pas aller dans ce sens-là.
Mais dans l'accueil qui est proposé aujourd'hui aux personnes qui sont atteintes de Covid et non vaccinées ce week-end sur RTL, on entendait aussi ce témoignage, on manque d'empathie, il y a moins d'empathie aujourd'hui, malgré vous peut-être parfois pour les personnes qui ne sont pas vaccinées.
Vous savez, il faut bien comprendre que les personnels hospitaliers donnent tout depuis bientôt 2 ans, continuent à donner tout, mais ils sont fatigués, ils sont épuisés pour ceux qui sont encore là. Beaucoup ont quitté les professions de santé parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc on peut quand même comprendre qu'il y a une certaine agressivité peut-être, mais qui reste verbale. Ce qui est important, c'est que les soins soient prodigués à tout le monde, et ce qui fait quand même la force de notre système de santé.
Gilles Pialou, dans Le Monde, aujourd'hui, il y a un médecin qui s'interroge, je le cite, « Est-ce normal de déprogrammer des malades pour s'occuper de ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner ?» Le tri des patients que certains hôpitaux pratiquent à nouveau, est-ce qu'un jour, il pourrait se faire entre vaccinés et non vaccinés ?
Je crois que François Braun l'a dit, on est dans une dimension éthique qui fait que de toute façon, les non-vaccinés, même les anti-vax qui sont agressifs quand ils sont hospitalisés, il faut rajouter cette dimension qui est insupportable sur le terrain, c'est qu'en plus on se fait engueuler et qu'évidemment tout le monde sera soigné. Donc la problématique, c'est effectivement le nœud d'étranglement. Quand vous avez 2 lits pour une seule personne, vous êtes obligé de faire des choix, mais ces choix sont pas faits sur le côté vacciné, non vacciné, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc effectivement, l'exaspération, elle est... Mais il faut rappeler aussi aux gens que quand vous fermez 2 blocs opératoires pour récupérer le personnel qui est capable justement de s'occuper de lits de réanimation, quand vous fermez des lits de soins critiques, vous déprogrammez des gens qui ont souvent déjà été programmés pour de la chirurgie reconstructive du sein, pour des tumeurs, etc. Donc effectivement, l'agacement est très fort, mais bon, voilà, on n'est pas là pour être agacé, on est juste là aussi pour soigner tout le monde. Je pense pas que la peur et la vindicte aient une vertu pédagogique pour ceux qui veulent vraiment pas se faire vacciner. L'objectif, c'est d'aller chercher ceux qui ne sont tout simplement pas accédés au vaccin. On oublie quand même qu'il y a 1 million de personnes à haut risque qui ont eu 0 vaccin et 2 millions qui ont plus de 65 ans et qui n'ont pas eu la 3e dose. Et pas parce qu'ils sont anti-vax, c'est parce qu'ils attendent, ils n'ont pas eu l'occasion, ou il faut aller les chercher. Et je crois que l'objectif, et le conseil scientifique l'a dit, il y a 5 millions de personnes à aller chercher. Et je crois que c'est ça l'objectif majeur, c'est pas de convaincre les quelques récalcitrants qu'on retrouve en réanimation.
5 millions de personnes à aller chercher. Alors, on a appris il y a quelques minutes la mort d'Igor Bogdanov. Son frère Grishka était décédé la semaine dernière, lui aussi du Covid, non vacciné. Leur représentant avait expliqué qu'il n'était pas anti-vax, malgré tout, des personnalités publiques comme les frères Bogdanov qui ne sont pas vaccinés. C'est le genre de choses que vous regrettez, Gilles Pialou?
De toute façon, je vais vous dire, moi, ça fait 30 ans que je me suis occupé du sida, maintenant je m'occupe du Covid. De toute façon, chaque mort est un mort regrettable et c'est une infinie tristesse. Là, encore plus quand c'est des gens qui ont fait toute une carrière autour d'une forme de science, si je puis dire, donc ils ont accès à l'information. Évidemment, c'est doublement triste. Moi, je pense que plus important que d'utiliser l'image de ceux qui peuvent avoir été touchés comme ça aussi brutalement par le Covid, je trouve que c'est les personnalités publiques positives qui devraient porter le message de vaccination. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ?
Comment
peux donner des exemples, mais...
Comment aller chercher les vaccinés, c'est la question que vous posiez, et c'est aussi ce que a évoqué au 3210 Marcelin. Il est médecin généraliste en Vendée et lui estime, face aux opposants au vaccin, être allé au bout de ses arguments.
Le ratio de population qui reste à convaincre sont un peu des irréductibles, hein. Des gens qui ont des arguments fortement connotés avec des théories un peu complotistes ou un peu sombres, qui dépassent le rationnel, qui fait que prendre sur quelques minutes du temps pour essayer de les convaincre médicalement d'aboutir à une vaccination, c'est pas chose aisée. Sur ma patientèle, on sait 10% qui ne sont toujours pas vaccinés. J'ai peu d'enthousiasme et puis peu de conviction pour arriver à les faire aboutir à une vaccination.
Alors aujourd'hui, il y a le pass vaccinal qui a commencé à être examiné à l'Assemblée, François Braun, aller chercher les non-vaccinés, ça passe par la contrainte, ça passe par les arguments aussi, vous y arrivez, vous ?
On y arrive difficilement. Vous savez, au bout de 2 ans, on commence à savoir ce qu'il faut faire face à cette pandémie. C'est pas très compliqué, finalement. Il faut d'un côté diminuer le nombre de malades et d'autre côté augmenter les capacités hospitalières. Alors, on n'a pas de solution une fois qu'on a dit ça, mais les capacités hospitalières, on voit qu'aujourd'hui, elles sont à bout. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut plus espérer l'aide d'une région sur une autre parce que tout le monde est touché, on n'a plus de personnel à rajouter, on n'a plus de personnel de renfort. Donc il reste à diminuer le nombre de malades. Pour diminuer le nombre de malades, la meilleure solution, ça reste la vaccination. Et ensuite, vous avez les gestes barrières et le confinement. Donc c'est une mixture qui combine un petit peu tout ça. Vaccination, bien sûr, au maximum. Gestes barrières, oui. Et puis finalement, on arrive à un confinement peut-être partiel d'une partie de la population avec ce pass vaccinal, mais on n'a pas d'autre solution.
Gilles Pialou, de votre côté, vous pensez qu'il est possible encore de les convaincre ?
Oui. L'expérience qu'on a, comme disait l'infirmier, effectivement, nous, c'est à peu près les mêmes chiffres sur 13 lits et 11 non vaccinés. Mais on s'aperçoit que finalement, mais c'est très bien le témoignage, c'est extrêmement chronophage. C'est-à-dire qu'il faut prendre les arguments un par un, les démonter, expliquer, faire de la pédagogie. Effectivement, quand vous êtes dans un cabinet de ville, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est aussi la responsabilité des experts qui passent à la télévision, des autorités sanitaires, comme ils essayent de le faire pour certains, de faire de la pédagogie. Et avec la pédagogie, on arrivera peut-être à gratter des milliers de personnes qui sont encore vaccino-sceptiques. Et la France a toujours été spécialiste du vaccino-scepticisme. Donc, c'est pas quelque chose qui a été inventé avec la Covid. Et il faut beaucoup de pédagogie et beaucoup de temps. Et effectivement, je comprends qu'il y en ait qui soient usés.
Une dernière question, François Braun. Olivier Véran évoquait un mois de janvier difficile. Vous y êtes prêt ?
On s'y prépare. Savoir si on y est prêt, c'est plus délicat, mais en tout cas, on s'y prépare. Malheureusement, on commence à avoir l'expérience de ces vagues successives. Et en tout cas, tout le monde est sur le pont, tout le monde est prêt, mais il faudrait quand même pas que ça dure trop longtemps.
Merci François Braun, chef des urgences au CHR de Metz-Thionville, président du syndicat SAMU Urgences de France. Et merci à vous Gilles Pialou, chef du merci service maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur RTL. Je vous souhaite bon courage pour la suite et bonne soirée.
RTL Soir avec Marion Calais.